Un cachet à un autre.
C'est ça, Razano peut en cacher un autre. Donc bonjour David.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, nom, profession, lieu de vie, en quelques mots?
Donc vous l'avez compris, je m'appelle Razano de mon nom, David de mon prénom. Je suis un peu en famille avec Michael, secrétaire général. Qu'est-ce que tu m'as dit, lieu de vie? Alors j'habite donc dans l'ouest parisien, ça n'a pas changé depuis ce matin. Triel-sur-Seine. Donc près de Vaux-sur-Seine, pour ceux qui connaissent, un saint lieu du monde évangélique. Et puis en termes de métier, ben je suis dans le conseil. Alors je suis pasteur en première instance, et je travaille dans le conseil depuis 6 ans et demi, 7 ans bientôt, dans un cabinet de conseil donc qui essentiellement intervient sur tout ce qui est développement, mobilisation du management dans les organisations privées ou publiques.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire en deux mots de quoi tu vas nous parler maintenant?
On m'a demandé de faire un témoignage. Donc, j'ai pensé cette intervention sous la forme d'une causerie. Pour la bonne et simple raison que je ne savais pas ce que les intervenants précédents allaient dire, effectivement. Donc, vous avez entendu deux grands experts ce matin. Et bon, moi j'interviens en tant que praticien, témoin, moi-même, donc quelques points que je voudrais mettre en lumière, à la fois en rebond de ce qui a été dit ce matin, surtout de l'intervention de Nicolas, parce que je ne me permettrai pas de rebondir sur l'expertise de Nancy, je ne suis pas du tout juriste, et puis voilà, apporter quelques points de vue, alors qui seront tout à fait les miens et que j'en ferai pas une règle de vie.
Très bien, donc je te cède la parole et je te laisse la place.
Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, je suis un homme particulièrement heureux parce que ceux qui m'ont précédé à ce micro ont eu le courage de faire des slides. Moi, je fais ça toute la semaine. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais me mettre en vacances de cette affaire-là et puis être un peu dans la spontanéité. C'est pour ça que je traite cette intervention qui doit durer jusqu'à quelle heure, on m'a dit. On m'a dit 15 heures, c'est ça? Sous forme de causerie plutôt, donc voilà, quelque chose d'un petit peu intimiste, on n'est pas très très nombreux, même si la salle est pleine, c'est l'avantage des salles qui ne sont pas très grandes, c'est que quand elles sont pleines, elles sont pleines. Le témoignage. Alors le témoignage dans l'entreprise. Quand on m'a confié cette intervention, je me suis dit, soit c'est un piège, soit c'est quelque chose qui mérite de se poser des questions et de se les reposer. Pour moi, ça a été utile de me reposer des questions. Alors d'abord, je vais vous dire d'abord d'où je parle. D'où je parle, qui suis-je? Moi, je suis né dans une famille chrétienne, je suis fils de pasteur. Et assez naturellement, je me suis engagé sur ce chemin-là, parce qu'on est tous un peu influencés de ce qu'on a pu voir et vivre quand on était gamin. Et d'ailleurs, ça c'est un point qui me paraît important, c'est que nous nous calfeutrons tous, qu'on le veuille ou pas, derrière des grilles de lecture, qui sont posées en nous-mêmes, par l'éducation qu'on a reçue, très fortement, mais aussi par la culture dans laquelle on a pu grandir. J'ai noté ce matin qu'il y avait des cultures différentes, hein, nord-américaines, philippines, chinois, j'en oublie, sud-américain, c'est ça, hein, ouais. Donc quelque part, tous ces contextes culturels nous façonnent et nous amènent à avoir un regard sur la vie qui nous est propre. Alors, je reviendrai là-dessus, mais si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que finalement, nous sommes quand même le produit, les uns et les autres, de quelque chose qui nous a façonnés. Autrement dit, nous ne sommes pas simplement que des chrétiens. L'identité chrétienne, c'est une sorte de méta-identité qui vient se poser au-dessus d'une réalité très personnelle. Alors, il peut y avoir des chrétiens qui se ressemblent dans leur façon de comprendre la Bible, dans leur façon de prier, dans leur façon de chanter, dans leur façon de célébrer, dans leur façon de concevoir ce qui caractérise la vie chrétienne. que l'on soit catholique, que l'on soit luthéro-réformé, que l'on soit orthodoxe, que l'on soit plutôt de sensibilité évangélique. Enfin, il peut y avoir des grandes familles, des grandes façons de concevoir l'expression de la foi chrétienne, mais au demeurant, cette expression de la foi chrétienne prend appui sur une identité personnelle. Et ce qui est important pour moi dans le témoignage, dans le contexte dans lequel je travaille, c'est moins le chrétien que David dans sa singularité qui est marquée par non seulement une culture chrétienne, puisque moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, je ne sais rien, c'est comme ça, mais aussi par une éducation chrétienne, mais aussi par une formation chrétienne. Et quand vous mettez derrière le mot chrétien ou avec lui le mot pastoral, eh bien, je veux dire, voilà, ça donne une ampleur, une amplitude en termes d'identité. Puisque moi, j'ai vécu dans un contexte pastoral, et que quand je dis que c'est assez naturel, ça a été assez naturel pour moi de rentrer sur ce chemin de vie qui est le ministère pastoral. Évidemment, c'était assez naturel et facilitant, mais en même temps, une conviction intérieure, ben, j'étais peut-être un peu fait pour ça. Bon, certains appellent ça la vocation. On va parler de la vocation ici, c'est pas le sujet. Mais voilà, j'étais porté par ça. Donc, une fois mon bac en poche, ben, j'ai pris le chemin de Vaux-sur-Seine, hein, c'était le chemin un peu obligé. Je suis rentré dans le ministère pastoral, donc j'ai commencé en région parisienne, et puis ensuite, assez rapidement, j'ai eu un ministère de 15 ans, donc à l'église baptiste de la Méno à Strasbourg. D'où je suis revenu dans les années 2003-2004 pour prendre une responsabilité au niveau national, la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, comme directeur du développement, et puis vers la fin, comme secrétaire général. Et donc ça a été à peu près 22 ans de vie d'engagement d'église, extrêmement riche. Je reviendrai sur l'un ou l'autre aspect tout à l'heure. Et puis, il y a eu un virage dans ma vie qui a fait que j'ai décidé à ce moment-là de changer d'environnement professionnel. Et donc, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais finalement, après avoir passé quelques années à dire à mes collègues pasteurs, ce serait bien aussi, à côté de votre ministère pastoral, d'envisager un métier séculier, parce que l'Église n'a pas nécessairement toutes les capacités pour vous payer. Donc, anticiper, essayer d'avoir une activité professionnelle à côté. Je me suis dit, c'est le moment, moi-même, de vivre la chose. Pas tout, de donner des conseils. Encore faut-il pouvoir l'éprouver soi-même, et je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Et donc, je me suis mis en quête d'un métier qui n'était pas dans le cadre de du monde de l'Église. Et donc, j'ai changé d'univers. Je suis passé du monde de l'Église au monde de l'entreprise. Et dans ma réflexion préparant cette intervention, je me suis dit, c'est intéressant. On connaît l'expression, le monde de l'entreprise. C'est un monde. C'est un monde à part. De la même manière que l'Église est un monde à part. Et il y a une forme de tension entre l'appartenance au monde de l'Église et l'appartenance au monde de l'entreprise. Alors après, on a d'autres univers qui nous sont propres. Hein. Le monde des loisirs, le monde de la famille, etc. Notre vie se vit comme ça, en tension entre différents univers, qui sont souvent très hermétiques l'un par rapport à l'autre. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est justement le masque, le rôle que l'on joue dans chacun de ces mondes. Nicolas, ce matin, a évoqué, me semble-t-il, je retrouve mes notes, oui, il parlait des consultants, c'est mon métier. Il disait, les consultants sont en représentation permanente, disait-il. C'est tout à fait juste, à mes yeux en tout cas, je ne fais pas une loi, mais je trouve que cette façon de définir le consultant est juste, parce que le consultant, par essence, est au service, propose des prestations intellectuelles à différentes entreprises, à différents petits univers. Et quand je dis différent, c'est le mot est faible, hein, c'est très différent entre que vous interveniez dans une collectivité territoriale, que vous interveniez dans un ministère de l'État, déjà là, vous avez deux mondes très très différents, et pourtant on est quand même dans la sphère publique, que vous interveniez dans un groupe comme L'Oréal, alors L'Oréal, ou que vous interveniez dans un groupe comme la SNCF ou comme Auchan, des clients que je connais, ce sont des univers tout à fait différents, chacun avec sa culture. Alors il peut y avoir évidemment des points communs, mais ce sont des univers différents. Et le consultant, lui, quelque part, doit épouser un peu la forme de ces univers très rapidement. Il doit comprendre un peu les spécificités des métiers. Et puis épouser ces univers. Enfin, je sais qu'il y a des consultants dans la masse là, mais c'est mon point de vue. Alors que je vous laisserai compléter, apporter votre témoignage. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, c'est mon vécu. Et ça m'a marqué parce que quand en 2010 j'ai basculé d'un monde à l'autre. Hein, vous avez compris que je suis né dans l'Église. J'ai grandi dans l'Église. J'ai servi dans l'Église. J'ai été payé par l'Église. Enfin voilà, j'étais un professionnel de l'Église. Et j'en étais très heureux d'ailleurs. J'ai vécu très très belles années dans mon ministère. Et quand il a fallu changer de monde, ça a été une bascule très 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 particulière. Et si je prends un peu de temps pour vous en parler, c'est parce que quelque part, c'est pour que vous compreniez que ce que je peux vouloir dire sur le témoignage dans l'entreprise est influencé par tout ça. Quand j'ai dû changer de métier, j'ai travaillé avec un réseau qui n'existait pas, en fait. C'est-à-dire, je me suis créé un réseau. J'ai commencé à prendre mon téléphone un jour, c'était le 1er mars 2010. Je commençais à prendre mon téléphone, et puis à téléphoner comme ça à des gens que je connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, dont j'avais entendu parler, c'est tout. Et je dis, écoutez, voilà, je m'appelle David Razano, ça vous dira rien, mais vous avez intérêt à me rencontrer. Voilà, moi je serais très heureux de passer un quart d'heure avec vous, si c'est possible. Donc, c'est comme ça, je suis passé de... à peu près 12-15 rendez-vous de très grande qualité avec des personnes qui frisaient la personnalité, qui étaient assez étonnés de ma démarche, hein, d'aller les voir en leur disant, écoutez, voilà, bon, voilà ce que je sais faire, est-ce que dans votre environnement, vous voyez un poste que je pourrais honorer, satisfaire, puis sinon, c'est pas grave, par contre, je ne sortirai pas de votre bureau sans avoir trois noms que je peux contacter de votre part. C'est allé assez vite, somme toute, parce que ce travail de réseau m'a permis déjà de commencer à mettre un pied timidement dans ce monde de l'entreprise, d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai côtoyé des gens que j'avais pas vraiment l'habitude de côtoyer sous cette forme-là, parce que dans les églises, on a quand même un peu le privilège d'avoir différents types de profils, et en tant que pasteur, bon, j'étais pasteur d'une communauté assez importante à Strasbourg, où il y avait non seulement beaucoup de nationalités différentes, mais aussi des profils sociaux très différents, ce qui est une vraie richesse pour l'Église. Et j'ai eu le privilège de travailler avec des personnes qui avaient des responsabilités importantes dans leur entreprise et qui m'ont progressivement formaté sans que je sache. Alors, une façon de voir qui n'était pas nécessairement la plus courante dans les milieux évangéliques, qui sont parfois un peu trop pusillanistes, et où on arrive difficilement à parler d'argent, par exemple, sans culpabiliser profondément. Donc là, ces personnes-là m'avaient ouvert un petit peu l'esprit sur le fait que, bon, bah, avancer, c'est investir. Investir, c'est gérer. Gérer, c'est prendre des risques. Prendre des risques, il vaut mieux avoir la foi. Donc j'ai rencontré ces personnes dans mon travail de réseau. J'étais surpris d'abord de voir des hommes et des femmes qui m'ont accueilli de façon très simple, très, très accessible, malgré leurs responsabilités. Et puis qui se sont vraiment posés dans cet échange en conseiller. Ils n'ont pas fait que m'écouter et me dire au revoir. Ils sont rentrés un peu dans ma démarche. Et parallèlement à ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire j'avais des coachs, j'ai fait un comment on appelle ça, un état des lieux de compétences, un bilan de compétences. Et la conseillère du bilan de compétences me dit, écoutez, monsieur Razzano, en tant que pasteur, vous savez faire plein de choses. Moi, je dis, bon, tant bien, tout bien. Vous savez, pasteur, on ne sait pas ce qu'on fait, en fait. Hein. Et elle m'a dit, par contre, bon, vu votre parcours, je vous conseillerais peut-être pas l'entreprise, plutôt le milieu associatif, quand même. Hein. Ça passera mieux. Je dis, bon, ben, si vous le dites, tout bien. Puis un jour, dans mon travail de réseau, comme ça, je tombe sur un monsieur qui se trouve il était fraîchement en retraite, mais il avait été le directeur administratif et financier de Peugeot Corporate. Et protestant. Pur jus, quoi. Je dis vraiment, protestant, chez les protestants. On s'est rencontrés donc très brièvement. Je passe sur l'anecdote qui a fait pourquoi on s'est rencontrés brièvement. On devait se rencontrer une heure, on s'est rencontrés 10 minutes. Mais enfin, 10 minutes, ça a suffi. Parce que sous un parapluie, il me dit bon, alors, les protestants quittent le navire, comme ça. Non, c'est pas lui qui m'a dit ça. Lui, il m'a dit. C'est une formule un peu similaire, c'est pas lui qui m'a dit ça, c'était un autre, j'y reviendrai après. Et il me dit, écoutez, quand j'ai vu votre CV, je me suis dit, c'est un homme comme ça qu'il leur faut chez Orange et chez France Télécom. Bon, à l'époque, il y avait eu des soucis de suicide chez France Télécom, etc. Voilà. Déjà, heureusement, je connaissais un peu France Télécom, j'ai levé un œil, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Je me suis dit, allez, il a l'air de dire un truc vachement sérieux. Donc, bon. Et il m'a dit, écoutez, mais vous pouvez travailler dans le privé. Enfin, ça a été son seul message. Donc ça fait un petit déclic et je me suis dit, bah, s'il le dit, c'est qu'il croit en moi. Et je vais donc ouvrir cette possibilité-là. Bon, puis alors de fil en aiguille très rapidement, je suis tombé sur un réseau de relations, parce que j'ai été accompagné à ce moment-là, je vivais des moments difficiles, j'ai été accompagné par un prêtre qui m'a accompagné spirituellement. Et qui, à un moment donné, me téléphone, me dit, écoute, je connais quelqu'un qui a failli être prêtre, qui est un jeune qui a été pris dans un cabinet de conseil, mettons en relation avec lui. On a fait ça, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés. Ce jeune m'a fait rentrer dans le cabinet où j'ai été embauché très rapidement. Et donc j'ai rencontré tout un processus d'embauche. Alors dites-vous bien que je ne rentre pas dans les détails, mais j'avais jamais fait de CV de ma vie, j'avais jamais fait de processus d'embauche de ma vie. Je veux dire, bon. Donc voilà, ouais, j'étais vraiment en plein dans une découverte de ce monde là où on vous reçoit, on vous écoute, vous savez pas trop ce que les gens pensent, bon. Et puis le processus, il y avait 5 entretiens plus un examen, bon, pour entrer dans ce cabinet là. J'ai traversé tout ça un peu inconsciemment, je me suis dit, de toute façon j'ai rien à perdre. Et je me suis retrouvé pour le dernier entretien, donc chez le PDG du cabinet. Qui me dit comme ça, et c'est lui qui m'a dit, il a commencé comme ça, il a dit, alors les parpaillots quittent le navire. J'ai pas répondu, qu'est-ce que vous voulez dire. Et puis il me dit, c'est en embauchant des gens comme vous que je peux couler ma boîte. Bon, bienvenue au club. Et puis, il me dit, ceci étant dit, vous m'intéressez beaucoup, votre expérience pastorale, pas un coup fin, ça mettra un peu d'épaisseur au cabinet. Épaisseur humaine, au cabinet. Bon, si moi je fais de l'épaisseur humaine, j'étais un peu moins gros à l'époque. Et donc, je suis rentré là-dedans, et puis il m'a dit, oui, puis là, cette dernière parole, après m'avoir offert un café, il m'a dit, écoutez, M. Razzano, vous allez en bouffer des ronds de chapeau pendant 2 ans. Très bien. Et voilà, j'ai plongé là-dedans, dans ce monde de l'entreprise, que je ne connaissais pas du tout. Alors, là je vais rentrer un peu dans le sujet de notre journée, d'une certaine manière, parce que vous auriez pu faire venir un autre témoin que moi. Moi j'ai une facilité dans le témoignage. C'est que je suis pasteur. Et que ça me colle à la peau. Je n'ai pas cherché à arracher cette étiquette, quoi. Je veux dire, une espèce de tatouage virtuel qui ne quitte pas. Et bon, ben voilà, il le savait, là, le patron, ses acolytes aussi. Et un jour, parce que ça embauchait pas mal dans ce cabinet, et ça faisait quelques semaines que j'étais là, et puis un jour, je vois un nouveau qui arrive, qui s'approche de moi, et qui me dit bonjour, je m'appelle un tel, et toi? Je dis ben, moi, je suis David, ah bon, d'accord, tu viens de quel cabinet? Je dis, je n'étais pas dans un cabinet, enfin c'est un peu compliqué, je suis un peu atypique dans le cabinet. C'est toi le pasteur. Oui. Donc ça, voilà, c'est le plaisir de tous mes collègues, c'est-à-dire qu'il y a un pasteur chez nous. Donc vous voyez, ça aide quand même. On n'a pas, ça ouvre le chemin. Donc du coup, effectivement, ça a intrigué. Mais qu'est-ce qu'un pasteur est venu se perdre là? Et les gens étaient à la fois intrigués et puis un peu respectueux, parce qu'ils disaient, bah, quel courage à 45 ans d'avoir fait la bascule et tout ça. Bon, moi, j'étais pas conscient de ça, mais bon, ils étaient conscients pour moi. Et très vite, je me suis dit, voilà, attention, David, parce que c'est bien beau comme ça, d'être un peu la bête de foire, là, mieux que tout ce monde, là. Mais en même temps, t'es observé. Et je me suis dit, bon, alors que je m'adaptais à ce nouveau monde, et puis à toutes ces règles, et à cet environnement, je me suis dit, bon, ce qui est très important, c'est d'être authentique, d'être vrai. J'avais beaucoup de choses à faire devant apprendre un nouveau métier. Ça me s'est occupé tout mon temps. Donc j'avais pas vraiment comme priorité, en entrant dans ce monde-là, de faire des convertis, quoi, d'aller sauver des âmes. D'autant que parfois certaines âmes, je me disais, elles ont l'air plus sauvées que la mienne. Parce que ça, c'est un point quand même. C'est qu'être témoin dans l'entreprise, ça veut dire quoi en fait? Parce que l'entreprise, c'est pas simplement, c'est pas un conglomérat d'âmes à sauver. Hein. C'est un ensemble d'individus, d'hommes et de femmes, qui peuvent être de belles âmes. Moi, j'ai rencontré de très très belles personnes depuis que je travaille dans le monde de l'entreprise. Des hommes et des femmes qui ont, qui peuvent être de vrais exemples pour nous chrétiens, dans leur façon de voir le monde, dans leur façon de penser, dans leur façon de se poser, je dirais, dans la relation avec les autres, dans le regard qu'elles portent sur l'autre. Donc ça, c'est un point extrêmement important, parce que qu'est-ce qui fait que je suis témoin et témoin de quoi? Quelle est ma foi? Quelle est la foi dont je dois rendre témoignage? Est-ce que c'est la foi qui est crue, c'est-à-dire celle que je dis, que je récite d'une certaine manière, pour employer un mot peut-être un petit peu avec des guillemets évidemment, mais celle que je dis, celle de la confession de foi, celle qui fait que finalement je crois ce que je crois. Puis je dis, je vais dire aux autres, voilà ce que je crois. Et dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, les personnes sont assez prêtes à entendre ce que vous croyez, si vous êtes prêts, vous, à entendre ce qu'ils croient eux. Et ils sont prêts à accueillir ce que vous croyez au même titre que ils attendent de vous, que vous accueillez ce qu'ils croient eux. Et ça, c'est pas, je dirais, ça c'est une chose, dire la foi que je crois. Mais il y a aussi la foi qui croit. C'est-à-dire la foi qui se vit dans la réalité de la vie de ce monde de l'entreprise. Dont Nicolas a très bien parlé ce matin, je dirais, dans ce qui fait à la fois ce qui fait toute la complexité de l'entreprise. Ça, c'est un point important. L'entreprise est un monde complexe, de la même manière que, je dirais, tout ce qui caractérise la vie est complexe. J'étais étonné quand j'ai reçu le flyer, là. Témoin dans son entreprise. Oser dire ma foi. Très bien. Le dire ou ne pas la dire. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas juste milieu, quoi. Soit on dit, soit on dit, quoi. Ok, je continue la lecture. Être une lumière ou un contre-témoignage? Oula. Être une lumière ou un contre-témoignage? Je dis encore, ils n'ont pas dit être une lumière ou ténèbres. Enfin, je veux dire, c'est quand même très dualiste tout ça. Hein. Être une lumière, si je ne suis pas une lumière, je suis un contre-témoignage. Bon. Donc j'ai intérêt à être une lumière, parce que sinon... Comment je vais pouvoir expliquer que si je ne suis pas une lumière, je suis un contre-témoignage, quoi. Bon. Puis après, je me suis dit, c'est quoi être un contre-témoignage? Et puis en creux, c'est quoi être une lumière? Vous voyez, si on complexifie un petit peu la réflexion, ce qu'il faut faire, parce que justement, la vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas noir ou blanc. C'est jamais ça, quoi, je veux dire. La vie, c'est plein de nuances. La vie, c'est des hommes et des femmes très divers, très variés, qui ont le droit de croire ce qu'ils croient, qui ont peut-être même raison de croire ce qu'ils croient, et qui ont différentes façons d'appréhender une même réalité. Enfin, un même objet, nous ne le voyons pas, vous et moi, de la même manière. Là, dans ce que je suis en train de dire, ben, les uns et les autres, vous ne l'entendez pas de la même manière. C'est pour ça que je ne cherche pas nécessairement à vous convaincre fondamentalement. Moi, le témoignage, c'est une parole, plus souvent en acte qu'en verbe, que l'on donne aux autres. Ce que vous donnez aux autres vous appartient déjà plus. Et ça doit faire son chemin dans la vie des autres. Donc je me suis dit, il faut sortir de cette dualité là, telle, qui caractérise assez souvent quand même notre façon de penser et qui n'est pas totalement déraisonnable. Je veux dire, la dualité est une caractéristique de la nature humaine. Et d'ailleurs, la dualité est antérieure à toute pensée. Hein. C'est vrai, c'est faux, c'est beau, c'est laid, c'est transcendant, c'est immanent, c'est théorique, c'est pratique, enfin on verra. Tout est en dualité. Mais dans cette dualité qu'il ne faut pas totalement écarter, il y a une couche, enfin il y a un environnement de complexité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Edgar Morin, mais Edgar Morin est le chanteur de la complexité, est très intéressant à découvrir cet homme-là, parce que il montre combien on a tendance à fragmenter de façon très fine nos façons de raisonner, de penser, et donc à ce titre-là, d'enfermer notre réflexion dans une multitude de cases qui sont parfois hermétiques les unes par rapport aux autres, alors qu'en fait, tout est en interaction. Et dans le monde de l'entreprise, si je reviens dans ma boîte, on m'observait, et chacun m'observait en fonction de sa réalité propre, de ses croyances propres. Alors, de façon très concrète, qu'est-ce que moi j'ai vécu dans cette dynamique de témoignage, donc finalement, où, à la fois en interne du cabinet, puisque aujourd'hui j'ai changé de cabinet, j'en suis sorti en 2014 de ce cabinet-là. En 2015, j'ai pris une année en portage salarial, donc j'avais des clients personnels. Et fin 2015, j'ai intégré un autre cabinet, plus petit, beaucoup plus axé sur l'humain dans sa démarche, je dirais dans sa façon de concevoir le travail et le management. Donc il y a le consultant, lui, vit dans une entreprise, et puis il vit de fait aussi au milieu d'autres entreprises. Donc c'est un travail où on est toujours non seulement en représentation, comme le disait Nicolas, mais dans l'adaptation constante de devoir soi-même être très à l'aise dans sa posture, parce que parfois on va tutoyer les clients, parfois on va les vouvoyer. C'est pas évident, quoi, je veux dire, de se faire à ça. Dans le premier cabinet où j'étais, il y a eu, quelques mois après mon arrivée, tout d'un coup, un matin, j'arrive au cabinet et je vois un désarroi, enfin un malaise profond, parce que un des consultants, plus âgé que moi, était décédé pendant la nuit d'une crise cardiaque. C'était une sorte de... C'était quelqu'un qui était là depuis de longues années dans le cabinet, donc ça a fait un choc terrible. Et là, c'est bon, parce que là, du coup, c'est le pasteur qui est ressorti, assez naturellement. Mais je me suis dit, bon, comment réagir par rapport à ça? Et j'étais étonné de voir combien le spirituel a émergé chez d'autres collègues que je ne connaissais pas nécessairement les convictions. Il y en a même un qui, à un moment donné, a dit... Avec deux ou trois autres consultants, nous allons aller dans la paroisse qui est catholique à côté, et puis nous allons prier. Très bien. J'ai suivi le mouvement, je suis allé prier avec eux. Alors il y avait entre autres, dans ce groupe-là, il y avait le prêtre, l'ancien prêtre plutôt, grâce auquel j'étais rentré dans le cabinet. Mais j'étais étonné de voir qui avait suivi le mouvement, quoi. Là où d'autres avaient besoin plutôt d'être dans une sorte de silence. Alors là, je me dis, en tant que chrétien, l'avantage, c'est qu'on a un silence qui est habité. On n'est pas seul dans le silence. Et j'ai écrit un texte après, que j'ai remis au PDG, parce que c'était un ami personnel de celui qui était décédé, qui m'en a jamais reparlé de façon très, très directe, mais qui en a parlé indirectement plus tard dans une réunion. Un texte dans lequel je citais l'apôtre Paul. Non pas parce que j'avais voulu sauter sur l'occasion, mais parce que j'avais envie de dire quelque chose qui relevait de l'espérance qui était en moi. J'ai pas eu la conviction de faire résonner cette expérience de façon communautaire, collective, mais de l'adresser à une personne dont je sentais plus que chez les autres la souffrance, même s'il la cachait, il la disait pas, parce que bon, c'était au PDG, il fallait quand même pas exagérer. Alors, des expériences comme celle-ci, où on peut distiller quelque chose sans pour autant attendre un répondant, un dialogue. J'ai une collègue, au bout d'un an que j'étais en cabinet, mon manager, mon N plus 1, me dit, bon, comment ça va? Et je lui dis, tiens, il y a une collègue dans le cabinet, là, j'ai pu la côtoyer une fois dans une très courte mission, et j'aime beaucoup sa façon de voir les choses dans le management, et j'aimerais bien travailler avec elle à l'occasion. Je dis, bah, écoute, on verra. Puis ça s'est présenté. Sur une mission, d'ailleurs, on n'était que elle et moi, mission difficile, où il a fallu intervenir, ça a abouti au déplacement d'une DRH dans une collectivité. Donc une mission difficile, très humaine, très concentrée dans le temps. Et puis, cette collègue, on a fortement sympathisé, et elle me dit, écoute, moi je suis athée. C'est clair et net, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pas d'ambiguïté. Mais je sentais qu'elle elle reconnaissait, elle me reconnaissait aussi dans mon identité, dans ma foi. Et il se trouve qu'on a eu beaucoup de missions par la suite ensemble, et qu'après elle a quitté le cabinet, elle a changé de cabinet, et puis on s'est retrouvé dans le cabinet où nous sommes ensemble aujourd'hui. Et c'est marrant parce que dans les moments difficiles, je lui disais, tu sais, moi je crois en un Dieu qui peut, je veux dire, parfois ouvrir des situations qui semblent inextricables. Elle me regarde et puis elle me dit, s'il y a un Dieu pour les consultants, c'est super. Et elle en a fait un jeu d'une certaine manière, mais non, voilà, elle en parlait, et puis parfois elle adressait un mail à une petite équipe sur l'émission où on était, en disant, voilà, il y a un Dieu pour les consultants, David nous l'a dit. Dernièrement, c'est des petits exemples comme ça que je vous donne, simplement pour dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de dire les quatre lois spirituelles, vous voyez. Parce que finalement, les gens aujourd'hui, être pécheur, pas pécheur, ça peut dire grand-chose. Ce qui est important, c'est l'authenticité du vécu, c'est l'intégrité. Et dernièrement, dans le cabinet où je suis aujourd'hui, il y a l'associé principal, je l'entends au téléphone, parler à un client, parce qu'on est en open space. Vous savez, ces espèces d'endroits où on travaille tous les uns sur les autres. Et enfin, où il faut réprimer ses humeurs. Et ce monsieur, là, qui a 65 ans, j'entends au téléphone, il parlait à son client, il disait « Ouais, je me rappelle d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques années qui s'intitule « La porte du changement s'ouvre de l'extérieur ». Changement s'ouvre de l'extérieur. Je suis allé sur internet, la porte du changement s'ouvre de l'extérieur. Puis, j'ai vérifié, parce que l'intuition que j'avais, c'était que la porte du changement, en fait, s'ouvre de l'intérieur. Puis, bingo. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, parce que moi, j'ai pris Apocalypse 3.20, puis je me suis simplement souvenu d'un tableau de William Hunt, qu'on peut voir à Saint-Paul Cathédrale à Londres, qui s'appelle La lumière du monde, où on voit Jésus qui frappe à la porte. Apocalypse 3.20, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, etc., etc. Et non, pas etc., etc., si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et sur le tableau William Hunt, on voit Jésus qui frappe à une porte où il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Donc j'ai dit à mon collègue, tiens, je pense que tu t'es trompé, le titre du bouquin, il me semble que c'est plutôt... Ça, c'est l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut faire son intelligence juste parce qu'on a vérifié. Et il me dit, tu es sûr? Non, je suis sûr. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a, ça fait écho à un texte biblique, quand même, d'Apocalypse 3:20, qui dit, Jésus dit... Ah bon, très bien. Et puis ma collègue, la clé de service, là, elle me dit, c'est quoi ce tableau? Tu pourrais me l'envoyer, le tableau, que je le regarde un peu? Des petites choses comme ça, voyons, je l'ai envoyé, évidemment, je prends du temps pour le trouver de façon visible quand même sur Internet. Et puis, je lui ai dit, quand je lui ai envoyé le tableau, je lui ai dit, lis Apocalypse 3:20. Après, si vous voulez, le témoignage dans l'entreprise, c'est savoir être dans ces interstices de faisabilité, où il y a une socialité. Alors, le temps passant, je voudrais focaliser à partir de ces exemples que je vous ai donnés sur un mot qui pour moi est un mot-clé que Nicolas a dit très rapidement au début de son intervention ce matin. Il a dit, préalable, ce qui est avant toute chose, c'est la relation avec Dieu d'abord. Puis ensuite, il a glissé dans son exposé sur le relationnel, avec son nouveau mot. Et effectivement, le témoignage, c'est de la relation. Mais ça veut dire quoi, la relation? En fait, il peut y avoir des relations sans rencontre. Et ce qui est important, avec Dieu déjà, c'est non seulement de rencontrer Dieu. C'est d'avoir rencontré Dieu. Est-ce que vous avez rencontré Dieu? Vous pouvez vivre une relation sans avoir rencontré quelqu'un. Le rencontrer de cœur à cœur. C'est le père Teilhard de Chardin qui disait « Ce n'est pas d'un corps à corps dont on a besoin, ni d'un tête à tête, mais d'un cœur à cœur. » Et je crois que le témoignage dans l'entreprise, c'est d'être en rencontre avec les autres. Et moi, dans le métier de conseil, et surtout sur le soft, comme on dit chez nous, tout ce qui touche le management et la... Oui, tout ce qui touche le management, plus que la stratégie, il y a des stratèges, je crois, par là, c'est ça. Et l'organisation. Mais là, sur le management, on travaille sur l'humain, dans le sens où on parle beaucoup des relations du manager avec ses collaborateurs, des managers entre eux. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la relation est une chose, mais que ce qui est important, c'est de rencontrer l'autre. Aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire avoir une posture qui me mette en situation de rencontre de l'autre. Donc qui, finalement... signifie que va m'amener à comprendre que dans la relation, je donne et je reçois. Donc de ne pas se poser en patron, c'est-à-dire en celui qui sait tout, en madame je sais tout, en monsieur je sais tout, mais en quelqu'un qui existe, qui a son expérience de vie, mais qui a besoin d'autres aussi pour finalement avancer. Donc la rencontre est un point extrêmement important et qui donne de la vie à la relation. Parce que finalement, le témoignage, il est dans la vie, il est dans la réalité, et non pas à côté de la réalité. Et en tant que chrétien, on a souvent tendance à rendre témoignage en récitant d'une certaine manière ce que l'on croit. Parce qu'on se dit, c'est la vérité, quoi. Il faut que les gens le sachent. Comme l'a dit ce matin Nicolas, création, chute, rédemption, nouvelle création, tout ça, il faut que les gens le sachent. Il faut que nous, on maîtrise, il faut que les gens rentrent dedans. Vous savez, ça me rappelle quand on était gamin. Aujourd'hui, je crois que ça se fait plus, je crois que c'est interdit même à l'école, mais quand moi j'étais je sais pas en quelle classe d'ailleurs, on nous a fait disséquer une grenouille. On le fait encore? Oh ben voyons, ça serait dommage d'arrêter ça quand même. Hein. Donc vous prenez la grenouille, vous la clouez sur une planche, puis on vous donne un scalpel, et puis vous la coupez, et puis vous écartez tout ça, puis vous mettez les poumons d'un côté, enfin les poumons, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, différents éléments intérieurs, et puis vous apprenez à connaître la grenouille. C'est génial comme exercice. Puis il y a d'autres manières de connaître la grenouille, c'est quand même d'aller près d'une mare, puis de voir la grenouille vivante, bondir. Puis vous savez, la grenouille, quand elle est vivante, c'est là qu'elle dit croix. Croix. Quand elle est punaisée sur la planche, c'est pas pareil. Et bien, dans la vie d'entreprise, c'est pareil. Il faut arrêter de sortir un peu sa science comme ça, simplement parce que absolument, c'est des âmes à sauver, quoi. Ce sont des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu comme nous, qui nous entourent. Ce qui est important, c'est d'arriver à apprécier cette image. Et je crois que le témoignage de l'entreprise, c'est la façon que j'ai de rencontrer l'autre, donc de regarder l'autre. Est-ce que je le regarde comme une âme à sauver, que j'ai punisée sur mon tableau, en disant, voilà, il y a ça, ça c'est bien chez elle, ça, mais ah, il n'a pas ça. Ou est-ce que finalement, je l'accompagne, je suis là, je l'accompagne comme lui, d'une certaine manière, m'accompagne, parce que je reçois de cette personne, et cette personne va recevoir de moi, parce que quelque part, je crois ce que dit la parole, c'est que je diffuse la bonne odeur du Christ, et que ça doit capter à un moment donné, ça va peut-être interroger ça. Et on avance plus par nos questions, par nos réponses. Est-ce que je suis en capacité de rencontrer l'autre au cœur de lui-même ou d'elle-même? Il y a ce schéma qui dit, bon, ben, vous savez, il y a le masque. Chez chacun de nous, il y a le masque, la façon d'être en société. Là, ce que vous me voyez, c'est pas comme ça que je suis à la maison, hein, je veux dire. Ça deviendrait lourd. Et souvent, quand j'entends des chrétiens prier dans les églises, je me dis, comment ils parlent au travail? Est-ce qu'ils parleraient à leur chef comme ça? On a tous des masques, hein, des faces, des comportements, je veux dire, parce qu'on a besoin de se sécuriser. Puis de... Mais derrière le masque, la première enveloppe, il y a ce que certains appellent la grenouille, justement. C'est-à-dire tout ce qui est le côté un peu plus sombre de nous, nos défauts. Enfin, en tout cas, moi, pas de vous, les défauts, tout ce qui fait que quelque part, je veux dire, voilà, il y a cette partie de nous-mêmes qui n'est pas toujours sympathique, pas toujours facile, pas toujours évidente, qui, quand l'intranet ne fonctionne pas, commence à dire quelle merde ce machin, je perds du temps. Ben, je suis chrétien, en plus, je suis pasteur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oui, parce que ça, j'ai oublié de vous dire, je suis un homme comme les autres, hein. Et puis, derrière la grenouille, il y a ce que certains appellent le prince ou la princesse. La belle partie de nous-mêmes, il y en a chez tout le monde, même si chez ceux qui ne sont pas, entre guillemets, sauvés. Et ce qui est important, c'est dans la rencontre de l'autre, c'est la façon dont je regarde. Est-ce que je regarde le masque, est-ce que je m'arrête à la grenouille, ou est-ce que je vais chercher le prince et la princesse chez la personne avec laquelle j'ai parfois un peu de difficulté à cohabiter, à collaborer. Donc ça, c'est un point important en tant que chrétien. C'est est-ce que je vais être différent des autres en cela que je vais accueillir l'autre jusqu'à dans sa dimension la plus profonde et la plus intime, vraiment ce qui fait que cette personne est une personne intéressante. Combien de personnes inintéressantes avez-vous rencontrées dans votre existence? Quel que soit le chiffre que vous avez en tête, essayez de les retrouver, ces personnes-là. Et vous verrez quelque chose d'intéressant chez elles. Souvent, sur des missions, on m'a dit « Oh là là, David, tu vas rentrer, tu vas aller voir ces gens-là, tu vas voir, c'est pas facile. » J'ai jamais eu de difficulté avec ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais tout simplement parce que quelque part, voilà, j'écoute. Je me mets en situation d'écoute. « Oh, vous allez me dire, mais t'es pasteur, t'es formé pour ça !» Bah, peut-être, bon, ça aide sûrement. Mais j'ai eu des moments difficiles. Je me rappelle d'une intervention que j'ai faite dans une formation avec des chefs de bureau et puis des profils de ministères, de différents ministères. Il y avait 7 ou 8 ministères dans la salle, représentés, le ministère de l'État, représentés, quinzaine de personnes. Et je devais parler, on m'avait confié ça sur l'évaluation des politiques publiques. Il y a des spécialistes dans la salle de l'évaluation des politiques publiques. C'est un sujet que je maîtrisais pas, mais dans le métier du conseil, surtout quand on vous dit que vous êtes généraliste, on vous dit tu fais ça et puis tu ne poses pas de questions, on bosse toute la nuit s'il faut, mais débrouille-toi. Bon. Quand on a besoin d'argent, on fait ce qu'on nous dit. Puis l'évaluation des politiques publiques, si vous voulez, ça allait pas à l'encontre de ma foi, vous voyez. Donc, j'ai pas de raison de dire non. Moi, j'ai bossé, mais bon, c'était un sujet un peu difficile. Puis en plus, j'ai le support qu'on m'a donné, avec lequel je vais travailler avec les slides. Il y avait 152 slides, qui avaient été faites par un consultant, d'avoir 60 ans. qu'il y a du métier, qu'il y a de la bouteille. Les slides étaient illisibles, mais il fallait que je fasse avec. De toute façon, je n'avais pas le temps d'en refaire. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, il y avait 3 jours de formation. Mais un manque de bol, en face de moi, j'avais des gens intéressants, tous intéressants. Mais certains quand même moins intéressants que d'autres. Il y en a eu 3 ou 4 qui, au bout d'un jour et demi, sont allés voir la responsable du lieu de formation. Ils ont dit, le formateur, il faut le virer. Bon. Alors, je vois la responsable du lieu de formation rentrer en pleine séance, l'après-midi, le deuxième jour, il faut tenir jusqu'au lendemain. Une chère raison, je pourrais vous voir à la fin de la journée. Oui, très bien. Elle m'a dit, voilà, il y en a 2 ou 3 qui sont venus se plaindre. Voilà. Je dis, ok, les autres, ils ont dit quoi? Bah rien, ça a l'air d'aller. Et c'était des personnes, si vous voulez, ceux qui se sont plaints, je peux comprendre tout à fait. Je veux dire, bon, mais des gens intolérants, qui. J'abordais pas les choses comme eux, ils voulaient que je les aborde. Enfin, ils avaient le droit de le penser. Hein. Mais c'est très difficile, vous voyez, vous êtes dans une situation comme ça. Donc là, j'ai pas dormi de la nuit, le lendemain matin, je suis revenu, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, ben, je vais jouer 4 sur table. Je vais être dans la vérité. Vous savez, la vérité est un simplificateur de relations. Ça ne résout pas tout. Ça simplifie un peu les choses. J'ai dit, écoutez, voilà, il y en a 3 d'entre vous qui sont allés voir, j'ai refait l'histoire, j'ai dit factuellement, écoutez, voilà, moi, je vous présente le sujet dont je reconnais que je ne suis pas expert, mais j'ai quand même travaillé. Et puis en même temps, la formation, c'est aussi vous qui la faites un peu, quoi, par rapport à vos exemples, à votre situation, ce que vous vivez, etc. Donc, j'attendrai de vous un petit peu plus de peut-être d'investissement. Alors, bien sûr, ceux qui n'étaient pas dans le coup, ils étaient étonnés, qu'est-ce qui se passe vraiment. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je voulais simplement poser ça pour qu'on puisse quand même passer la dernière journée sans, je veux dire, voilà, de la façon la plus détendue possible, sachant que, voilà, bon, chacun prend ce qu'il veut, on a le droit. Hein. Il faut le vivre, c'est pas simple. Et ça, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, on vit tous des situations qui sont complexes, qui sont difficiles, parce que. Ce qui fait qu'une entreprise est complexe, c'est pas son organisation, c'est pas son organigramme, c'est pas ses métiers. Vous savez quelle différence il y a entre la complexité et ce qui est compliqué? Un sous-marin atomique lanceur d'engins, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. C'est compliqué parce que vous pouvez le démonter jusqu'à la dernière petite vis. Normalement, on sait le refaire. Un plat de spaghetti dans une poêle, c'est complexe, mais c'est pas compliqué. Parce que vous mettez les spaghettis dans une poêle sous le feu, vous savez pas du tout dans quel sens les spaghettis vont bouger. Et ce qui fait que l'entreprise est complexe, c'est les spaghettis qui l'animent, c'est-à-dire les hommes et les femmes. L'humain rend complexe une structure, que ce soit une église, que ce soit une organisation, quelle qu'elle soit. C'est complexe à cause de l'humanité. Alors, je voudrais terminer, j'aurai encore plein de choses à dire, mais je voudrais terminer, il y aura un temps de questions prévues tout à l'heure, si vous voulez, hein, avec ce texte qui a été cité par Nicolas ce matin et qui m'a fait réfléchir. Colossiens chapitre 3, verset 12. Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Ça, c'est déjà l'évangile. Hein. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Faites-vous un cœur, c'est l'intériorité. Faites-vous un cœur, le cœur des choses. Faites-vous un cœur qui soit simple, doux et patient. Déjà là, il y a du boulot. Faites-vous un cœur qui soit plein de tendresse et de pitié. Voyez les mots, et travaillez, laissez l'Esprit Saint travailler en nous. Laissons l'Esprit Saint travailler en nous sur ces mots en nous-mêmes, le cœur. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à l'autre. Ça, c'est une fois que le cœur est simple et doux, et tout, etc., on peut exprimer le pardon, on peut se supporter les uns les autres. Dans l'entreprise, parfois, c'est pas toujours simple de se supporter les uns les autres. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui, être à la ressemblance du Christ. Et surtout, et certaines traductions comme ce qu'a lu Nicolas Saint a dit, et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. C'est le par-dessus, le manteau qu'on met par-dessus tout le reste. En général, les gens normalement constitués, quand ils ont un manteau, ils ne sont pas à poil en dessous. C'est par-dessus d'autres habits. Mais parfois, il y a des personnes qui mettent un manteau de belle facture, un beau manteau, sur des habits qui sont sales et très sales. Parce qu'ils disent que c'est l'apparence qui compte. Parce qu'il dit, témoigner dans l'entreprise, c'est aimer les autres. Moi, le patron qui m'a dit, vous allez en bouffer des ronds de chapeau, il m'a dit, monsieur Azos, ce qui est important, c'est d'aimer les gens. Je ne vous le fais pas dire. Mais lui, il le disait, mais par rapport à l'évangile, j'ai bien vu au fil des années que c'était pas flagrant, sa façon d'aimer les gens. Et... Donc c'est facile de dire, il faut aimer. Il n'y a qu'à, faut qu'on aime. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment est le cœur? Si le cœur, au plus profond de nous, en tant que témoin dans l'entreprise, n'est pas cette simplicité, de cette douceur, de cette bienveillance, on ne pourra pas vraiment vivre des relations qui seront faites de rencontres avec l'autre. Et notre témoignage ne portera pas. On pourra déblatérer un discours évangélique. Ça ne veut pas être grand clerc pour le faire, hein, ou grand pasteur pour le faire. Et on s'étonnera de ce qu'en face, nos paroles vont cogner des murs. Alors que ce qui est important, c'est la rencontre qui fait que ouais, t'es crédible, parce que t'es normal. Parce que parfois, ça t'arrive de péter un câble. Moi, ça m'arrive parfois de péter un câble. Mais en même temps, il y a des valeurs, il y a des exigences. Dernièrement, ma collègue, toujours l'AT de service, là, elle me dit, bon, là, sur cette proposition commerciale, on va mentir un petit peu, parce qu'on va travailler des collègues qu'on n'est pas censé ne pas connaître, on ne les connaît pas, donc on va quand même faire croire qu'on les connaît. Je lui dis, non. On ne peut pas aller jusque-là. Alors, on a trouvé une manière de dire les choses en vérité. Ça demande un peu de travail de chercher la vérité. Voilà, alors je m'arrête là avec juste ce mot de la fin qui consiste à dire témoin dans son entreprise, j'ai envie de le retourner et de nous challenger. Apprenons à être des entrepreneurs du témoignage. Réfléchissons à ça. Merci pour votre attention.